Alors, bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue à un tout nouvel épisode du Balade-Omnie. Aujourd'hui, on est vraiment heureuse de recevoir Dr. Samuel Boudreau, le nouveau directeur de programme de résidence en médecine familiale de l'Université Laval. Puis, c'est ça. Donc, on parle de médecine familiale, mais autant présenter le programme puis en quoi ça consiste.
Donc, bonjour, Dr. Boudreau. On est vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui.
Ben oui, je suis contente d'être avec vous aussi.
Donc, pour débuter la discussion, là, nous, on aime toujours ça, laisser l'invité se présenter, c'est-à-dire expliquer le parcours académique puis professionnel, puis les implications aussi là, que vous faites.
OK. Ben, c'est ça, moi, je suis un médecin de famille. Hein, pour être directeur du programme de médecine familiale, on n'a pas bien le choix. Fait que c'est ça, j'ai été formé en médecine là, à l'Université Laval, comme vous. Puis après ça, j'ai fait ma résidence là, finalement à Joliette, qui était à ce moment-là un tout nouveau milieu qui s'appelle Nord de la Naudière. Là. J'ai jamais fait Nord de la Naudière. Puis là, ben, j'ai décidé de continuer ma pratique là-bas. Ça fait maintenant 10 ans que je pratique comme médecin à Joliette. Je pratique au GMFU, dans le fond, dans l'unité d'enseignement. Puis, je pratique aussi aux soins intensifs à l'hôpital de Joliette. Puis, fait du dépannage à l'urgence un peu. Puis, assez rapidement dans ma carrière, je me suis impliqué comme en administration. Là, je suis devenu adjoint pédagogique, là, je pense, dès ma deuxième année, qui est comme l'équivalent de ceux qui s'occupent des résidents sur place. Puis après ça, avec les années, on a eu plusieurs, la partie, disons, médecine familiale, c'est rapidement aller vers des populations plus vulnérables ou en situation, disons, des populations sous-desservies. Là, on a eu un partenariat qui s'est créé avec la communauté de Manawan, là, qui est une communauté Atikamekw dans le nord de Joliette. Puis, ben, ça, je pratique là depuis le tout début. Puis, j'ai été chef aussi de GMF pour ce parti-là. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis tanné. J'avais le goût de retourner aux études. Fait que j'ai fait une maîtrise il y a maintenant 5 ans. En evidence-based healthcare, c'est en Angleterre, Oxford. Puis là, ben, finalement, ben, c'est ça, vous l'avez dit, je suis rendu directeur du programme médecine familiale parce que ben, je veux faire plus d'enseignement, puis j'ai accepté ce poste-là, puis ce mandat-là, puis c'était défi-là à l'été dernier.
Quand même, un très beau parcours, hein, on va se le dire. Vous êtes aussi un peu impliqué dans le cours d'intégration, la majorité des élèves. Ouais. Vont le savoir, puis l'initiative Choisir avec soin aussi qui vous tient à cœur, je crois.
Tout à fait, oui, c'est ça. Puis en plus d'être médecin de famille, on a toutes des petites passions, puis ben, c'est ça, ouais. Le côté justement données probantes m'a amené à parler de surdiagnostic, puis je me suis joint au groupe Choisir avec soin Québec là, quand ça a été créé, notre volet. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'il y a un groupe Québec, ça fait 2 ans peut-être, puis ouais, je suis dans le comité directeur.
Puis c'est oui, tout neuf.
Cours d'intégration, puis
oui.
Top MF, où ce que je fais aussi du transfert de connaissances.
Ouais. Une sorte de très impliqué dans l'enseignement.
Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est
oui.
Le fun. Ben, oui, c'est ça.
Donner à la prochaine génération, comme on dit. Donc, aujourd'hui, on vous reçoit surtout pour parler du programme de résidence, mais est-ce que on peut d'abord aborder qu'est-ce qui se passe pour nous au préclinique, quel genre d'exposition on a, soit au préclinique ou même à l'externat, en fait, nos stages obligatoires, les stages optionnels.
Fait que je suis pas l'expert de tout ça parce que je commence à essayer de comprendre ce qui se passe quand vous êtes au préclinique, surtout. À l'externat, c'est un peu plus clair. Là. Mais si on commence par le préclinique, ben, de ce que j'ai compris, ben, là, vous faites des journées d'observation quand même à l'urgence ou même dans des cliniques médicales. Puis, il y a les stages d'été. Hein, il y a les stages d'été Saros. Il y a les stages d'été aussi autres que vous pouvez vous organiser. Là. On a eu des résidents, entre autres, à Joliette. Pas des résidents, c'est toujours des résidents, parce que je suis pas habitué, mais des étudiants à Joliette aussi. Il y a quelques... à chaque été, toujours des étudiants, soit dans un stage de recherche, parce qu'on fait aussi de la recherche, ou des stages cliniques. Fait que, ça, c'est toujours le fun comme étudiant de voir un peu la vraie vie parce que c'est ça. Hein? C'est beau avoir des cours, mais il n'y a rien de tel.
On ne dit jamais non. On ne dit jamais non à des stages quand on est au préclinique.
Je peux croire. J'étais comme ça aussi dans le temps. Puis, il y a un projet, en fait, pour le préclinique qu'on est en train de débuter, parce que moi, je pense que c'est vraiment important, justement, qu'on essaye de mousser l'exposition à la médecine familiale là, dès les premières années de médecine. Puis c'est un projet un peu, ben, il n'y a pas vraiment de terme francophone ou ben, disons les physician assistants. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est un terme très anglais. Dans le fond, c'est des gens qui travaillent avec les médecins puis qui les aident, qui font comme un peu les pré-entrevues. Fait qu'on a un de nos GMFU, qui est le GMFU de Neuchâtel, avec une de mes collègues, Myriam Lacasse, que j'ai peut-être connue, qui est bien impliqué aussi, puis qui a un peu mis ça, là, c'est un projet pilote qu'on est en train de faire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais avec des étudiants en médecine. Fait que dans le fond, c'est comme un stage qui, là, on pense l'horizontaliser sur quelques mois, l'équivalent de 3 mois, puis là, ben, ça, il y avait comme un jumelage avec des médecins pour que les étudiants, finalement, se pratiquent à faire des questionnaires dans un vrai contexte, puis qu'ils aident aussi, tu sais, parce que des fois, faire des stages d'observation, tu sais, c'est le fun parce qu'on voit, mais en même temps, je me rappelle que je trouvais souvent que j'avais l'air de pas très être utile, mais là, au final, quand que justement, tu vois des gens, tu questionnes, tu aides le médecin aussi à travers ça, à être un peu plus efficace, puis veux pas, c'est plus facile après ça de faire de l'enseignement plus ciblé aussi sur garde ça. Ce cas de diabète-là, ben peut-être que tu aurais pu aller questionner tel truc, parce que ça aurait été super pertinent. Puis là, tu sais, ça, souvent, ça reste un peu plus dans ce temps-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait même pousser, si ça marche bien, à plus large échelle. C'est un projet qu'on a débuté là, tout récemment. Fait que c'était, moi, c'est pas mal ce que j'avais. Je sais pas si vous autres aviez d'autres choses comme préclinique, ben, à part l'externe, disons, là.
Oui, principalement ça, au préclinique. Puis je crois, Marc-Pierre, le projet dont vous parlez, Dr Boudreau, est-ce que c'est une initiative de 2 résidentes par hasard? Parce qu'on a
entendu. Ouais, aussi.
C'est ça. Ah, on a eu une rencontre avec elle au début de l'année. Elles nous en ont parlé de l'exposition précoce et tout ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient très enthousiastes à y participer.
Parce que, puis c'est pour ça qu'on a impliqué des résidentes. En fait, c'est une idée de Myriam, puis elle a impliqué de ses résidentes de son milieu, parce que ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est que les étudiants ne soient pas bien outillés, supportés. Fait que là, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est justement voir c'est quoi les besoins, voir qu'il y ait des bons... parce que avec les dossiers médicaux électroniques, maintenant, on est très par gabarit. Fait que si tu arrives, puis c'est un peu déjà, justement, tu as un cas de dépression, tu ouvres le gabarit de dépression, puis là, ben, tu as les questions qui fit avec ça. Fait que ça peut aider aussi à s'organiser. Fait que c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire. Fait que oui, c'est le même projet. Ouais. Fait qu'ils commencent cet hiver, là, justement, là. Je ne sais pas si je pourrais leur écrire, mais je pense qu'ils vont commencer sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Avec les, fait que si on se tient au courant, puis moi, mon rêve, là, ce serait que tout le monde passe par ça. Ça va prendre beaucoup de travail parce que vous êtes beaucoup, hein, c'est ça. C'est des grosses cohortes quand même. Fait que ça en fait beaucoup. Puis à l'externat, ben là, il y a le stage de 6 semaines là, qui est en région. Fait que là, à ce moment-là, c'est la médecine familiale en région. Puis souvent, c'est très varié comme stage, parce que je veux pas, la médecine familiale, c'est ça aussi, particulièrement quand tu es en région. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est que les médecins de famille sont partout. Hein. Fait que quand les externes font les stages de soins pâles, c'est avec des médecins de famille. Quand ils sont en obstétrique, souvent, c'est avec des médecins de famille aussi en bonne partie, à l'urgence, à l'hospice, soins de personnes âgées. Il y en a partout, là. Même aux soins intensifs, comme moi.
Okay, ouais. Moi, pour vrai, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Là. Je me souviens qu'on avait parlé de ça durant la rencontre, là, le projet en médecine, ben, d'exposer les élèves encore plus à la médecine familiale, parce que personnellement, on a le choix de faire des stages d'observation durant le préclinique, mais on n'a pas tendance à nécessairement aller chercher les stages de médecine familiale parce qu'on veut un peu aller explorer tout. Fait que d'avoir des stages vraiment de médecine familiale, puis en plus pouvoir faire plus que l'observation, pour vrai, ça serait... Moi, c'est clair que c'est un projet qui m'intéresserait.
Surtout pour préclinique, c'est souvent des stages, nos stages obligatoires, suivis du développement des compétences, c'est des 3-4 heures environ, mais quelque chose comme ça, une exposition allongée, c'est sûr que tu gagnes de plus en plus d'outils, plus tu le fais. Là, j'ai quelques amis qui ont fait des SAROS, par exemple, puis juste en un mois d'été, c'est fou le progrès qu'ils font à être au quotidien avec un médecin puis à voir l'environnement.
Et là, dans le fond, on a parlé beaucoup de comme l'exposition préclinique à l'externat, mais là, c'est sûr qu'on vous reçoit vraiment plus pour le programme de résidence de l'université, en médecine familiale de l'Université Laval. Est-ce que c'est possible pour vous de nous le présenter en résumé, là, si on y va?
Bien sûr, je suis là pour ça. Fait que c'est un programme de 2 ans. La médecine familiale, c'est encore 2 ans pour, en tout cas, pour l'instant. C'est sûr que la grosse partie du 2 ans, c'est la moitié, 12 mois, c'est fait dans le GMFU, là, c'est de la médecine familiale. Fait que ça, c'est des blocs de 3 mois ou c'est horizontalisé, là, tout dépendamment du style de GMFU que vous choisissez. Fait que la moitié là-dedans. Quand on dit médecine familiale, souvent les gens disent « Ah, mais c'est un 12 mois de bureau. » Non. C'est à peu près 2/3 de médecine familiale en bureau. Puis là, quand on dit ça, bien, ça comprend aussi tout ce qui est comme sans rendez-vous. L'hospitalisation est là-dedans aussi, le CHSLD. Fait qu'il y a plusieurs choses. C'est tous les volets, justement, de la médecine familiale sont là-dedans. Puis il y a aussi un tiers qui sont des ASS, qu'on appelle les activités sélectionnées spécialisées, qui sont finalement des journées d'exposition en ORL ou aux soins palliatifs, ou des fois, il y en a qui font de l'urgence, ou de la mini-chirurgie, ou toutes sortes de petites cliniques ici. Après ça, bien, il y a les stages qui sont obligatoires. Fait que ça, il y en a encore quelques-uns. Fait qu'il y a la psychiatrie, la pédiatrie, la médecine interne, l'urgence, les soins de personnes âgées, la périnatalité. Un stage de région, aussi 2 mois, deux périodes d'un mois. Puis il y a des options. Fait que ça, il y en a 3 la plupart des milieux. On a 13 GMFU, il y en a 7 en ville, 6 qui sont en région. Fait que, je ne sais pas si vous voulez que je les nomme, mais tu sais, en fond, il y a 4 Bourgeois qui est proche de l'hôpital Laval, là, l'IUCPQ, il y a Maiseret qui est plus en basse ville dans le coin de Limoilou, il y a Saint-François-d'Assise qui n'est pas trop loin non plus, proche de l'hôpital de Saint-François-d'Assise, en fait, dans l'hôpital de Saint-François-d'Assise, Hauteville qui est dans le fond proche de Cartier, qui est dans un CLSC là-bas, puis Laurier qui est proche de Duchul, proche de l'Université Laval, qui est sur le boulevard Laurier. Il y a Lévis, qui est... le GMFU en soi, il n'est pas... Lévis est rendu gros. Hein? Il est encore à Lévis, c'est plus Saint-Nicolas, c'est proche des ponts. Mais il va déménager bientôt pour un agrandissement. Puis, ben, ils sont souvent à l'hôpital de Lévis, eux autres. Puis, il y a Neuchâtel, qui est notre petit bébé, notre dernier, qui il est dans le coin de l'hôpital de Chauveau, là, fait plus dans le nord, proche de Wendake, entre autres. Puis, il y a nos milieux de région. Fait qu'on a Trois-Pistoles, qui est à Trois-Pistoles, puis aussi à Rivière-du-Loup, c'est comme un peu ensemble. Baie-Comeau, Gaspé, Rimouski. Il y a les Aides-Chemins aussi, qui ça, c'est dans le fond en Beauce, fait qu'ils font leur hôpital à Saint-Georges. Puis sinon, leur clinique qui est à Lac-Aides-Chemins, qui est un CHSLD, puis toute une partie justement pour le GMFU. Puis il y a le nord de la Nautière, parce que j'ai été formé, qui est à Joliette. Puis bientôt, il va y avoir un nouveau GMFU à Sept-Îles. Fait que probablement que vous, quand vous allez avoir à appliquer, Sept-Îles va être ouvert. Il est supposé ouvrir en 2024, de mémoire.
Bon, mon année de promotion, donc j'aurai la chance peut-être de le visiter pendant des stages de résidence, on ne sait jamais.
C'est ça. Ouais.
Mais en effet, Laval touche un grand territoire quand même. On est un peu partout, on est omniprésent, puis c'est ça qui est le fun parce qu'il y a tellement de place, il y a tellement de choix, ben tu n'as pas le choix, c'est sûr qu'il y en a une pour toi.
Ouais.
Puis, pourquoi on devrait opter pour le programme de résidence de l'Université Laval? Qu'est-ce qui nous distingue des autres programmes qui sont à faire au Québec comme Sherbrooke, Montréal ou même McGill?
Bien, plusieurs choses, je crois, là. Mais tu sais, une des choses justement que tu étais en train de parler, bien, c'est qu'on couvre l'âge. Puis tu sais, sincèrement, on reçoit des prix à chaque année de quel point qu'on fait une bonne formation en région. Tu sais, ça, les milieux de région, des fois, c'est pas évident d'avoir un support et tout ça. Puis à l'Université Laval, ça a toujours été une fierté d'avoir des milieux de région qui sont forts. Puis on a pris KEAT, le prix KEAT, ça s'appelle, qu'on a gagné encore la dernière édition pour la qualité finalement de notre formation en région. Fait que c'est ça, je pense que c'est quelque chose. Parce que la médecine familiale en région, c'est une autre paire de manches aussi. Là, c'est sincèrement, c'est justement l'omnipratique là, de regarder le patient. Sous toutes ces coutures, là, tu sais, quand je faisais du dépannage à Ville-Marie, qui est dans le fond, c'est au Témiscamingue, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Là-bas, les médecins de famille, c'est juste eux, ils sont à l'hôpital. Là. Fait que quand j'étais à l'urgence, je parlais avec le gars qui faisait l'obstétrique, puis le prochain coup que je reviens, ben, c'est le même gars, c'est lui qui fait l'hospit, puis c'est lui qui prend mon chiffre d'urgence après. Fait que tu sais, ils font vraiment là, puis du bureau, puis tu sais, c'est vraiment très large. Là. Fait que t'sais, des médecins comme à Baie-Comeau, à Gaspé, Trois-Pistoles, c'est un peu ça, là. C'est vraiment des médecins hyper polyvalents. Fait qu'il y a ça. Mais sinon, tu sais, moi, je pense que surtout ce qu'on essaie de faire ici à l'Université Laval, bien, c'est de former des médecins complet, là, pas juste comme des experts, parce que c'est un peu tout le temps ça. C'est comme là, jusqu'à là, ce que vous avez beaucoup, c'est des cours sur comment l'expertise médicale, les connaissances et tout. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des médecins de famille complets. Puis, tu sais, il y a les compétences CanMed, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais bref, d'avoir des médecins qui sont érudits. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie aussi de vos affaires à vous aussi. Hein. C'est pas juste les résidents qu'on talonne avec ces
termes. Dès le premier jour en médecine. Toutes c'est les rencontres de programme, on les répète, notre belle fleur.
Compétence qu'elle met. Ah, ça, c'est ouais, la fleur, exact. Et puis la pétale centrale, ben, pas la pétale, ça a un nom, là. Le truc central, c'est l'expertise, vrai, mais les pétales autour sont aussi importantes, il ne faut pas oublier. T'sais. Fait que là, il y a le leadership, l'érudition. Je pense qu'on a plusieurs, sincèrement, plusieurs projets là-dedans. Nous, c'est, on ne parle pas juste de savoir-faire, on parle aussi de savoir-faire, on parle aussi de savoir-être. Puis, on a le centre apprentice qui est quand même, que je pense que vous ne connaissez pas tellement comme étudiant, ça se peut-tu pas vraiment? Hein? Fait qu'un centre de simulation, c'est vraiment, vraiment très bien à la fine pointe. C'est vraiment très, très pratique pour les situations d'urgence, surtout parce que c'est surtout là qu'on a besoin de se pratiquer avant que ça arrive pour le vrai, parce que des fois, pour rater notre coup. On fait un projet aussi, la formation à l'écho, vu que là, on est en train de former tous nos résidents là-dessus. Savoir-être aussi, tu sais, c'est pas tout de savoir plein de choses. Il faut savoir être capable de le communiquer puis de comprendre les autres. Fait qu'on a ce qu'on a créé aussi cette année, puis qu'on, en fait, l'année prochaine va être notre première cohorte à l'essayer. C'est une concentration du résident socialement engagé, qu'on appelle. Fait que c'est tout ce qui est santé mondiale. Fait que dans le fond, les Premières Nations et les clientèles sous-desservies d'ici, mais aussi à l'international. Fait qu'on a des beaux partenariats aussi avec Madagascar, avec l'Inde. Fait que tout ce côté-là, je pense que ça, c'est une de nos forces. On essaye de se démarquer de ce côté-là, puis on travaille fort là-dessus. Ce qu'on entend beaucoup aussi de résidents qui se parlent entre eux avec les collègues des autres universités, c'est qu'on est une équipe un peu à l'échelle humaine. Les gens, on a quand même un programme, on a quand même 280 quelques résidents, là, mais il reste que les gens ne se sentent pas comme un numéro. Je pense que, sincèrement, j'ai une solide équipe là, avec moi, là, les secrétaires qui travaillent dans le département, puis mon adjointe qui est Chantal Gravel, puis tout ça, c'est du monde, sincèrement, ils ont le cœur sur la main, puis ils veulent vraiment que les résidents réussissent. Puis, fait que c'est ça, on l'entend souvent, je pense que les gens ils sentent vraiment à l'écoute, qu'ils sont écoutés. Je pense qu'on a aussi à cœur l'innovation, on veut toujours s'améliorer. On veut avoir la formation flexible. On a une politique là-dessus que dans les 6 derniers mois de la résidence, les gens peuvent choisir un petit peu vers où ils vont s'en aller, puis tu sais, adapter leur résidence. Là. Toujours qu'ils fassent les stages, mais il y a une place quand même à ce qu'on peut faire un peu mieux. Puis ben, il y a les stages à option aussi qui aident à ça. Puis, ben, c'est ça. Après ça, ben, Québec, hein, je pense que vous le savez, c'est une belle ville, puis tout. Fait que, tu sais, pour ceux qui sont en ville, puis même ceux qui sont en région, quand ils viennent faire leur semaine, c'est le fun de passer une semaine à Québec, puis le campus Université Laval, il est tout vert. Puis, en tout cas, il y a plein de belles raisons, je trouve, là.
Oui, ouais. On a vraiment un beau campus, ça, faut le dire. Il y a quelque chose de très, très familial quand on est à Québec, puis ouais. Je pense qu'on, quand on dit qu'on a eu Laval, le rouge et or tatoué sur le cœur, c'est. Ouais. Un sentiment assez fort. Donc, je pense polyvalence puis innovation, c'est vraiment deux mots qui nous décrivent bien à Laval. Puis, je suis vraiment d'accord que l'équipe au département, ils sont super. Marc-Pierre et moi, on a la chance de collaborer énormément avec eux au travers du GMF. Puis, c'est une équipe en or. Là. On n'irait pas aussi loin sans eux, ça, sans vouloir être têteuse, évidemment.
Puis personnellement, personnellement, juste de me sentir dans un programme où je ne suis pas un numéro, c'est tellement comme un atout. Ça serait une raison qui ferait en sorte que je choisirais ce programme-là, en fait, parce que je trouve tellement que ça forme des meilleurs médecins puis des gens humains. Fait que, pour vrai, je trouve ça vraiment... Je vous laisse continuer, tu as bien l'air parti sur...
mais c'est tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'on y prête attention autant que ça. Là. C'est parce que, tu sais... Au final, notre client, c'est le résident, là, tu sais, puis le patient, ben, c'est sûr que, tu sais, on forme des résidents parce qu'on veut que les gens soient bien servis aussi, tu sais, la population québécoise, mais pour ça, il faut justement que nos résidents soient heureux aussi, là, fait que, oui, ça, c'est clair que c'est important pour nous, puis Ouais.
Puis en fait, nous, on en parlait justement, moi puis Myriam, tantôt, mais pour l'admission, en fait, au programme, là, comment ça fonctionne, en gros, là, tu sais, tout le processus des CARMS, puis tout, tu sais, tranquille, on se trouve quand même à se rapprocher de ça plus rapidement qu'on pense, là, fait que si on peut avoir un petit peu plus d'informations.
ça va vite la vie, puis fait que tu l'as dit, c'est le processus CARM. C'est sûr qu'en médecine familiale, c'est pas le processus le plus compliqué, dans le fond, parce qu'il n'y a pas nécessairement de lettre de référence à fournir et tout. Fait que ce qu'il faut fournir, ben, c'est notre CV. C'est une lettre de motivation quand même, là, une page, grosso modo, qui explique pourquoi qu'on applique en médecine familiale. Puis notre dossier de rendement, là, la DREM, le dossier de rendement de l'étudiant en médecine. Fait que ça, c'est fait par votre vice-doyen. C'est quelqu'un qui vous fait ça.
J'ai juste une question. Ouais. Par rapport le dossier de rendement, là, parce que tu sais, on parle souvent qu'on n'a pas de nos notes comptent plus et tout. Ça comprend quoi exactement, ce dossier-là?
Fait qu'il était en train de changer, entre autres, à cause de ça, là, parce que là, vous avez des pass or fail. Là, fait que en gros, c'est une lettre qui dit bon, ça ressemble tout le temps. C'est tout le temps marqué, c'est un bon étudiant, puis ça va bien. Puis, tu sais, des fois, il y a eu des étudiants qu'on a vus qui ont eu des difficultés, puis ça n'a même pas marqué dans leur DREM, là, pour vous donner une idée. Là. Fait que c'est pas un super bon outil pour déterminer si ça va bien ou pas. Il y a beaucoup, par exemple, tout ce qui est externa. Fait que toutes les fiches d'externa, ça fait partie du DREM. Fait que c'est, puis souvent, il y a des commentaires, tout ça. Fait que c'est beaucoup ça qu'on va regarder dans le DREM. Mais sinon, je dirais que une bonne partie quand même, c'est l'entrevue. Là. Fait que c'est une entrevue qui dans le fond, bien, il y a plusieurs dates parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui appliquent. Là. Je pense que c'est genre 500-600 par année au total là, dans toutes les facultés. Parce qu'en fait, c'est que nos entrevues sont communes. Sont communes entre Sherbrooke, Montréal et Laval. Fait que vous n'avez pas besoin de faire des entrevues pour les trois facultés francophones. McGill n'est pas là parce qu'ils sont une faculté anglophone. Mais c'est ça. Puis là, après ça, ben, dans le fond, on fait cette entrevue-là. Ça ressemble souvent, là, c'est un peu semi-scripté. Puis c'est un peu pour voir justement vos autres compétences, hein, pas juste la compétence d'expertise. Il n'y a pas de cas clinique, il n'y a pas rien. C'est vraiment,
ça ressemble plus à un MEM, malheureusement, Marc-Pierre.
Non.
Et c'est une cohorte Casper, elle ne pourrait pas savoir, mais est-ce que ça ressemble un peu plus à des situations comme ça ou c'est vraiment plus une entrevue, un peu comme une entrevue de travail, on discute.
Exact. Exact. Okay. On va poser des questions comme parlez-moi d'une situation qui a été difficile dans votre vie. Puis, c'est des trucs de même. Là, puis à chaque année, ça change un petit peu les questions, mais c'est sincèrement, il n'y a pas vraiment de préparation à faire parce que c'est ce qu'on veut, c'est de la spontanéité aussi. Là. Mm-hmm. Ça paraît ceux qui ont préparé un peu leur truc d'avance, c'est un peu fake, puis ben, on le voit d'avant, on les voit venir. Parlant de Casper, il y a un projet actuellement à l'Université de Montréal qui, c'est pas un Casper, mais tout comme, un genre de test de jugement situationnel, là, justement, puis sont en train d'essayer ça. Fait que ça se peut que vous autres, vous ayez à faire, ben en fait, si vous appliquez à Montréal, vous avez besoin de le faire actuellement. Puis là, ben, vu qu'on a des processus communs, ben, t'sais, si Montréal trouve que c'est le fun, ben ça se peut qu'on ait besoin aussi de l'utiliser à l'Université de Laval. Ça se fait en ligne, puis c'est comme les Casper de ce monde, c'est que ça fait un méchant tapon de personnes dans le milieu, puis là, tout le monde a le même résultat, puis il y a une coupelle d'outliers en haut au-dessus, puis là, ben, c'est eux autres, c'est surtout ceux en dessous qu'il faut qu'on essaie de poigner, mais tu sais, en tout cas, c'est pas parfait, là, ces tests-là, mais ça peut-être, j'ai hâte de voir, là, c'est un projet de recherche qu'ils sont en train de faire, c'est pas en canadien, c'est pas juste Montréal. Mais c'était des équipes pilotes, des universités pilotes, puis moi, elle a fait partie.
Ouais. Ça serait complémentaire à l'entrevue ou ça pourrait même remplacer?
Ça ne remplacera pas l'entrevue, c'est sûr. Okay. Ouais, ça va être complémentaire. Fait que là, actuellement, ils font ce que je vous ai parlé, lettre de motivation, entrevue, puis ce test de jugement situationnel-là, qui est bon pour tout le Canada aussi, parce qu'il y en a qui appliquent. Tu le fais juste une fois.
On dit que c'est une seule entrevue. Commune, là, parce que moi, je suis encore mêlée avec le processus CARMS et avec les GMFU. Dans le fond, notre classement, il se passe comment? Est-ce qu'on classe les GMFU qui nous intéressent le plus? Puis quand on applique en médecine familiale, on applique et on indique Par exemple, quelques IMFU de Montréal, quelques-uns de Québec, Sherbrooke, peu importe. Puis ensuite, selon notre classement qu'on a fait nous-mêmes, comment notre entrevue se déroule, puis comment chaque faculté nous a classés aussi. Là, ensuite, c'est là que viennent les matchs.
Oui, c'est un processus justement d'essayer de trouver le meilleur match entre ce que vous voulez et ce que les programmes ont voulu. Tu es comme candidat. Dans le fond, je dirais qu'en médecine familiale, la bonne nouvelle, c'est qu'avant, pour chaque GMFU, ça prenait une case. Parce que quand vous appliquez CARMS, je ne me rappelle pas du nom, je pense que c'est 10, vous avez le droit à 10 endroits où vous pouvez appliquer. Puis là, ben, comme pour les sous de médecine familiale, ben, ça devenait vite. Disons juste si tu appliques à Québec, ben, là, tu vas en avoir 7, là, techniquement. Tu es déjà quasiment foulé. Fait que là, il fallait que tu payes pour les autres. C'était un peu plate pour les résidents en médecine familiale. Maintenant, si tu appliques en médecine familiale à l'Université Laval, peu importe, même si tu mets les 13 GMFU, ça compte quand même juste pour un. Fait que ça, c'est un avantage pour vous. Fait que là, une fois que tu as justement décidé sur quel GMFU ou autre programme de spécialité vous appliquez, ben là, il faut que vous faites votre liste. Fait que là, vous classez votre numéro 1, votre 2, votre 3, votre 4, puis ainsi de suite. Puis les programmes font un peu la même chose. C'est juste que nous autres, on n'en a pas 12, on en a 400 à classer. Grosso modo, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on classe jusqu'à un certain niveau, puis on dit que les autres, on les accepte, peu importe. Puis en médecine familiale, c'est un peu comme ça fonctionne. Fait que vous autres, votre ranking va être souvent celui-là qui va déterminer là, où est-ce que vous allez aller. Puis là, ben, le 12 avril cette année, c'est la date et le 12 avril. Puis ça change à chaque année, là, mais dans le coin justement de mars-avril, ben, il y a une date où tout le monde sait en même temps finalement où est-ce qu'ils s'en vont. Puis il y en a qui ne sont pas rankés, qui sont des no-match qu'on appelle, mais eux autres souvent c'est parce qu'ils ont mis quelques endroits, quelques spécialités plus contingentées. Puis là, ben, il y a un deuxième tour qui peut se faire. Puis, tout ça.
Mais c'est quand même un bon jeu stratégique, penser aux CARMS. Puis...
Oui, bien, tu sais, c'est pas, tu sais, dans le fond, comme je vous dis, si vous appliquez en médecine familiale, probablement que, tu sais, si vous en mettez 2-3 que vous aimez bien, ça va être correct, là, au final. Mm-hmm. C'est pas si intense que ça comme match CARMS, que mm-hmm. des fois, peut-être d'autres spécialités, ça peut être, là, mais ouais.
Puis c'est ça. Puis j'ose croire que notre appréciation pour la médecine familiale va transparaître en entrevue aussi, là, Marc-Pierre et moi. Définitivement, on aime ça, puis on en parle, donc je peux en parler pendant des heures. On le voit avec notre podcast.
C'est ça. On va voir ça dans votre CV, en tout cas, que vous avez fait des podcasts sur la médecine familiale, ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr qu'on va l'inscrire, on y manquera pas. C'est puis, ça. Sinon, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des programmes de compétences avancées qu'il y a à l'Université Laval? On en parle quelques fois, mais en tant que tel, à quoi ça ressemble?
Fait que ça, il y en a encore beaucoup aussi. Là. Je pense que c'est une de nos forces aussi, c'est qu'on a quand même des... Bon, en fait, c'est qu'on les a tous. Il y a des milieux qui en ont, ils n'ont pas tous, fait que nous autres, on les a tous. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps qu'ils roulent aussi, puis ça va bien. Fait que ceux qu'on a, bien, je commence par clinicien érudit, qui est comme, dans le fond, c'est de 12 à 24 mois, celui-là. 12 mois, si vous allez plus au niveau pédagogie, administration. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut, justement, aller plus de ce côté-là, c'est souvent un peu semi-clinique, parce qu'on ajoute quand même de la clinique là-dedans. C'est pas juste là, des stages, puis des cours de style comment faire de la pédagogie. Puis celui de 24 mois, bien, c'est la recherche. Fait que celui-là peut-être un petit peu plus long, mais en même temps, ça équivaut quasiment à une maîtrise si on veut. Puis bien, c'est pendant ce temps-là, tu continues à être résident, tu continues à être payé aussi, contrairement à quand je suis allé faire ma maîtrise à Oxford, bien, tu n'es pas payé. Tu ne gagnes pas une cent. Puis tu la payes aussi, ta maîtrise, ça coûte quand même assez cher. Sinon, il y a périnat, 3 mois. Ça, c'est souvent dans les trois mois après leur résidence. Mais ça peut être aussi, tu sais, il y a comme les 3 premiers mois, il y a les 3 mois d'après, puis il y en a même qui font ça après les fêtes. Fait que, tu sais, ça peut être fait un petit peu n'importe quand, selon quand ça fit dans les heures des résidents ou aussi des milieux. Fait que ça, c'est de l'obstétrique, puis ils font un peu le néonat aussi. Soins personnes âgées qui est un 12 mois, fait que ça, c'est Probablement que vous connaissez un petit peu sous le nom de gériatrie aussi. Là, fait que, soins palliatifs aussi sur un an, ça ressemble un peu en termes de structure. Sinon, il y en a un qui date de moins longtemps, qui est médecine du sport et de l'exercice. Fait que là, c'est beaucoup du locomoteur. Puis, des médecins qui sont... c'est la clinique du PEPS, entre autres, qui roule beaucoup avec ça. Puis l'urgence, qui est souvent très populaire, le MU3, beaucoup d'applications à chaque année. Ça aussi, c'est un 12 mois. Puis sinon, il y en a un tout petit... Il y a un nouveau aussi, qui est 3 mois de douleur chronique. Fait que dans le fond, les gens qui veulent faire l'accompagnement, le soulagement de la douleur chronique, fait que c'est un 3 mois aussi avec nos cliniques de la douleur de la région. Là, c'est à Lévis, puis Québec, je ne me rappelle pas c'est quel hôpital, mais c'est dans le CHU, là.
Et est-ce que normalement c'est assez contingenté ces programmes-là? Comment ça marche pour y accéder? Est-ce que c'est une entrevue?
Oui, fait que les soins personnes âgées, soins PAL, médecine du sport, urgence, c'est des programmes qui sont dans le CARMS. Fait que là, c'est le même processus. Il faut faire les entrevues, puis il y a une lettre de motivation, puis un CV. Puis c'est un peu la même affaire. Ces programmes-là sont pas vraiment contingentés à part l'urgence, je vous dirais. Celui-là, c'est assez costaud à chaque année. Là. 6-7 places là, actuellement, probablement dans le coin de 80 applications. En fait, c'est assez difficile à voir. Ceci dit, les gens ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'urgence quand ils n'ont pas de MU3, mais c'est pas vrai. La majorité des urgentologues au Québec actuellement n'ont pas de MU3, ils n'ont pas de MU5. C'est des médecins de famille qui ont juste l'expérience là-dedans, parce qu'au final, il y a ça aussi qui compte à mener dans la vie. Hein. Puis sinon, les autres ne sont pas CARMS, puis ils ne sont pas tellement contingentés non plus. Périnat, il y a quand même beaucoup de gens qui le prennent, mais comme je vous dis, vu qu'il y a plusieurs, il y a même des gens qui pourraient le faire dans les 3 derniers mois de l'année. Si les gens sont flexibles là-dedans, ils sont toujours capables de se trouver une place là, dans le programme.
En tout cas, moi, périnat, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Là. Fait que quand j'entends que c'est pas si contingenté, ça me dérange pas tant.
Ah, c'est ça. Puis tu sais, ça aussi, la périnat, on n'est pas obligé de le faire, là, 3 mois de plus, dans le sens qu'il y a plein de gens qui font de la périnat, qui font de l'obstétrique sans en fait. Mais tu sais, ce qui est le fun de ces formations-là, c'est que ça te donne un... C'est que tu sais, au final, un an après, tu vas être aussi bon, dans le sens que si tu avais pratiqué pendant un an, tu vas avoir plein d'expériences, puis tu vas être bien correct, mais ta première année, peut-être qu'elle aura été un brin plus stressante que si tu avais fait une petite formation complémentaire de plus. Puis que ça te donne souvent, ça l'aide sur la confiance, puis sur le sentiment d'imposteur. Ça diminue un petit peu le sentiment d'imposteur, peut-être. Ouais.
Ah, mais on a pas mal en médecine. Il y en a plein en médecine qui connaissent ça, syndrome de l'imposteur. Ce ne sera pas inconnu comme terme.
C'est ça.
Aussi, on voulait aborder un sujet là, parce qu'on entend parler de plus en plus d'une prolongation de la résidence en médecine familiale de 2 ans, en fait, ça serait de passer de 2 ans à 3 ans. Est-ce qu'on peut en parler davantage?
Oui, mais c'est clair que c'est quelque chose qui s'annonce à l'horizon, là, qui pointe tranquillement. Quand j'ai pris, fun fact, là, quand j'ai pris mon mandat cet été, celui qui était là avant, c'est Christian Roux, l'ancien directeur. Il a fait ça pendant 8 ans. Puis je demandais à Christian, tu sais, si je deviens directeur, Christian, va-t-il falloir que je gère ça, mon affaire là, de la 3e année? Là? Puis il dit, ah, inquiète-toi pas avec ça, ça n'arrivera pas. Même si tu fais 2 mandats de suite là, dans 8 ans, ça ne sera pas là. Finalement, une des premières choses qui est arrivée, c'est que j'ai su que le Collège de médecine de famille du Canada, qui est notre organisme qui, disons, qui chapeaute tous les examens, qui donne la certification de médecin de famille, ont officiellement pris position cet automne comme quoi que leur recommandation, c'est qu'on augmente d'une année la formation médecine familiale. Maintenant, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pas, tu sais, il faut que tout le monde l'accepte. Toutes les parties prenantes, le ministère, ne sont pas encore au courant de ça. Le Collège des médecins du Québec, qui l'autre organisme quand même qui nous accrédite, sont au courant, mais ils n'ont pas encore fait nécessairement le travail, ils sont en train de monter comme un groupe de travail là-dessus. Il faut que les universités soient d'accord. Là. Il n'y a pas. Les autres, je vous ai dit tantôt, on a 284 résidents, rajoute-moi-en 50 de plus, ça en fait en tabarouette du monde. Là. Ça fait un gros programme. Il faut qu'on ait plus de monde pour s'occuper de tous ces résidents-là aussi. Fait que ça ne peut pas se faire comme du jour au lendemain, ça, c'est sûr. probablement que ça va prendre encore plusieurs années là, avant que ça arrive. Je pense que vous autres, qui 2024, c'est sûr que ce n'est pas fait. Là. En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de commencer à y réfléchir pour que d'ici 2025, on ait peut-être une idée de ce qu'on pourrait faire. T'sais. Mais probablement qu'on parle plus d'un horizon de 10 ans. Puis, tu sais, dans les années 80, il y avait eu la même affaire. Là, je pense début 2000, là, il y avait eu comme une prise de position aussi, que c'était 3 ans. Finalement, ça a été un peu tombé dans l'eau. Fait que, tu sais, on ne sait pas trop ce que ça va devenir aussi, mais ça c'est possible. Hein, tu sais, être médecin de famille aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est ça. Mais c'est un sujet très chaud. Très chaud. Il y a des pots, il y a des comptes, il y a des gens de tous les bords là-dedans. On pourra en parler longtemps.
Ça mijote.
Oh, oui, c'est.
On va dire ça comme ça.
Oui.
Puis, on parlait un peu des deux collèges qui nous accréditent, mais j'étais curieuse. On n'en a pas parlé, mais les examens, ça ressemble à quoi pour finalement être patron?
Les examens, dans le fond, c'est sûr que. Bon, pour avoir ton permis, il faut que tu aies complété ta résidence. Faut que ça, c'est la première affaire. Il faut que tu aies fait tes 26 périodes là, de stage, là, qui sont l'équivalent de 2 ans. Puis, il faut que tu aies fait un projet d'érudition. C'est les deux comme conditions à avoir ton permis de ce côté-là. Puis, après ça, il faut que tu aies fait ton examen du Collège des médecins de famille du Canada. Il est en deux parties. Fait qu'il y a une partie écrite, un peu cas clinique. Puis là, tu sais, développement court, surtout comme réponse, là, fait que nommer 4 traitements pour ce type de patient, des choses comme ça. Puis sinon, l'autre partie qu'on appelle les EMS, là, les entrevues médicales simulées, fait que là, c'est des patients qui arrivent avec toujours, ils ont toujours deux problèmes. Fait que là, il faut que tu découvres c'est quoi leurs deux problèmes. Tu as 15 minutes pour faire ça, puis à travers ça, il faut que tu leur parles du plan de traitement. Associé à ça. Fait que c'est ça, c'est pendant un bout de temps, ça avait, à cause de la COVID, ça avait été mis sur le hold, mais là, ça reprend cette année. Puis ça a toujours été un peu ça, là, notre accréditation. Avant, il y avait l'examen aussi du Collège médical canadien là, que vous faites, là, le LMCC. Ça a comme sauté. Fait que ça, il n'y en aura plus. Ça fait un examen de moins pour les résidents en médecine. Les gens ne sont pas déçus.
Non, on ne se plaint pas quand il y a moins d'examens. Ça, c'est certain.
C'est ça. Il n'y a personne qui a pleuré cette décision-là.
Non. Je ne croirais pas. Si on a une dernière question. Si vous aviez un conseil à offrir aux étudiants qui nous écoutent, ce serait quoi?
Bien, on a parlé un petit peu tantôt, mais j'aurais tendance à dire que c'est de ne pas hésiter de venir voir les milieux de médecine familiale. C'est sûr que là, les opportunités de stage ne sont pas infinies, mais quand même, d'essayer d'organiser comme que vous pouvez pour voir, parce que souvent, on découvre un milieu qui est pas mal différent que des fois ce qu'on peut entendre. Souvent, ce qu'on entend, c'est des gens qui ne connaissent pas trop la réalité de la médecine familiale. Puis, c'est encore malheureux. Il y a encore beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés avec la médecine familiale. Là. Puis, tu sais, juste quand on écoute le gouvernement ces temps-ci, on se dit « My God, je pense qu'ils sont pas venus souvent voir les médecins de famille, je pense, parce que, en tout cas, ils ont une drôle de vision de ce que c'est vraiment être médecin de famille. » Puis tu sais, en plus, c'est que votre formation est tellement comme, tu sais, c'est encore très centré hôpital, tu sais, très centré spécialité médicale, puis c'est comme, j'ai un cours sur l'angine, fait que c'est le grand expert de l'angine qui va me donner un cours sur l'angine, alors que, tu sais, dans les faits, c'est qui les voit, c'est les médecins de famille dans leur bureau. Mais bon, fait que, puis c'est pas la majorité des médecins, là. C'est les médecins de famille, la majorité des médecins, puis c'est ça. Puis, on n'est pas très présent dans votre formation, on essaie de faire changer ça tranquillement, pas vite. Mais c'est ça, la seule façon de venir, c'est en faisant des stages. Faut que, c'est un peu ça le message, c'est que si vous êtes capable de venir nous voir, puis on va vous aider à essayer de rendre ça le plus en plus possible, mais je pense que ça peut être très, très bien. Ça peut changer une vie, je pense. Parce qu'on le souhaite.
Bon, bien, ça serait de cette façon-là qu'on pourrait clore le podcast. C'était vraiment une discussion intéressante et captivante. Fait qu'on vous remercie encore, Dr Boudreau, pour votre temps précieux. Puis on espère que vous avez apprécié la discussion autant qu'on l'a apprécié, nous.
Bien, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir de parler de médecine familiale. C'est tellement un beau sujet.
Oui.
Nous aussi, on se tanne pas.
Ah, c'est bon.
Donc, alors, on vous dit tous à la prochaine pour un prochain épisode de Balade Omni.